VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du vendredi 19 août 2022. Bonjour à toutes et à tous. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia. Pour commencer, les titres. Au Tchad, l'opposition maintient une manifestation interdite par la junte à la veille du dialogue national inclusif. Au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko a officialisé jeudi sa candidature à la présidentielle de 2024. Au Kenya, le président sortant Uhuru Kenyatta promet une transition en douceur. Au Rwanda, une femme risque 2 ans de prison pour une tenue indigne. En Guinée équatoriale, la lutte anti-gang met à mal les droits humains, dénonce Amnesty International. En Ukraine, endommager la centrale de Zaporizhzhia serait un suicide, avertit le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal. Un collectif de l'opposition au Tchad a annoncé hier, lors d'une conférence de presse, maintenir sa manifestation prévue ce vendredi et en appel à la désobéissance civile, tout en dénonçant le caractère illégal de l'interdiction du rassemblement par la junte au pouvoir, Michel Joseph.
Wakitama, un collectif de partis d'opposition et d'associations de la société civile, avait appelé à manifester le 19 août contre le CMT, Conseil militaire de transition, dirigé par Mahamat Idriss Déby Itno, fils du défunt président Idriss Déby. Wakitama souhaite manifester à la veille de l'ouverture à N'Djamena du dialogue national inclusif entre l'opposition civile et armée et la junte au pouvoir. Un dialogue qui doit déboucher sur des élections libres et démocratiques et la remise du pouvoir aux civils. Wakitama ne participera pas au dialogue qu'elle considère comme biaisé. Mercredi, le ministre de la Sécurité publique avait interdit la manifestation, estimant que les organisateurs de la marche n'ont pas respecté le délai légal de dépôt. Lors d'une conférence de presse, Max Laolengar, le coordinateur de Wakitama, a dénoncé cet interdit, annoncer le maintien de la manifestation et ajouter que quand l'arbitraire devient la règle et l'injustice une monnaie, la désobéissance civile est un droit sacré pour tout le peuple. Ils veulent défier la loi, ils vont tirer les conséquences de leurs actes, a menacé le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Abderrahmane Koulamallah.
Au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko a officialisé hier sa candidature à la présidentielle de 2024 et il a accusé le président Macky Sall et la France de se liguer pour l'empêcher de se présenter. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Moi, Ousmane Sonko, s'il plaît à Dieu, et si mon parti le veut, parce que nous avons des règles d'investiture au sein du parti, je suis candidat à l'élection présidentielle de février 2024. Je crois n'avoir pas besoin de démontrer la légitimité de cette candidature.
Ousmane Sonko, 49 ans, déclara ainsi sa candidature à la présidentielle sénégalaise de 2024. Chef du parti PASTEF et élu maire de Ziguinchor en janvier, l'opposant accuse le président Macky Sall de susciter des dossiers de terrorisme, de rébellion, de viol imaginaire fabriqués avec le soutien de la France pour l'empêcher d'être candidat s'il est condamné. Il est depuis 2021 sous le coup d'une inculpation pour viol présumé contre une employée d'un salon de beauté. Sa mise en cause avait contribué à plusieurs jours d'émeutes meurtrières, de pillages et de destructions. M. Sonko, qui est arrivé troisième à la présidentielle de 2019, crie à la machination du pouvoir. Un autre opposant, l'ancien ministre Malik Gakou, a annoncé mercredi sa candidature pour la présidentielle de 2024.
Le président sortant du Kenya, Uhuru Kenyatta, assure que la transition se fera en douceur après la présidentielle du 9 août et dont les résultats donnant son vice-président vainqueur pourraient être contestés en justice. Abdourahmane Dia.
Le Kenya restera déterminé à enraciner les principes de bonne gouvernance afin de garantir que le pays maintienne sa position d'exemple éclatant de démocratie sur le continent en maintenant la paix pendant cette période de transition, a déclaré la présidence sur Twitter. Le chef de l'État kényan a fait cette promesse lors d'une rencontre avec des représentants religieux. Uhuru Kenyatta ne s'est pas encore exprimé publiquement pour saluer la victoire de William Ruto, son vice-président, devant Raila Odinga avec plus de 233 000 voix d'avance. Après deux mandats, Uhuru Kenyatta ne pouvait pas briguer de troisième mandat. Il a apporté son soutien à Raila Odinga, figure de l'opposition et candidat pour la cinquième fois à la magistrature suprême. M. Odinga a rejeté mardi ses résultats, les qualifiant de parodie. Mais il a toutefois appelé ses partisans au calme et indiqué qu'il poursuivrait toutes les options légales disponibles. Raila Odinga a jusqu'à lundi pour déposer son recours auprès de la Cour suprême, qui dispose ensuite de 14 jours pour rendre sa décision.
Au Togo, le gouvernement fait volte-face quant à la hausse de 73% des prix de la bonbonne de gaz domestique. Selon notre correspondant Kossi Wusu, face au tollé général, il a revu à la baisse les prix du gaz butane quelques jours après une hausse spectaculaire qui avait porté le prix de la bouteille de gaz de 6 kilos de 3120 à 5400 francs CFA et celle de 12,5 kilos à 11 150 francs CFA. Au Burkina Faso, le gouvernement a annoncé pour sa part une augmentation de 35 francs CFA sur le litre du Super 91 et de 30 francs CFA sur celui du gazole. Dès ce vendredi, il y a trois mois, le gouvernement avait augmenté de 100 francs CFA chaque litre de carburant. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
Dès aujourd'hui, les Burkinabés vont ajouter 35 francs CFA sur le litre du Super 91 et 30 francs CFA sur celui du gasoil. Aussi, une hausse de 40 francs CFA va s'appliquer sur le prix de l'huile diesel distillée. Au niveau de la Ligue des consommateurs, c'est le mécontentement. Elle écrit sur les réseaux sociaux avec une tendance à la baisse du prix du baril à l'international. On assiste au Burkina à une augmentation du prix de l'essence à la pompe. En trois mois, le litre du Super 91 a connu une augmentation de 135 francs CFA et celui du gasoil de 130 francs CFA. Le gouvernement, en mai dernier, avait pointé du doigt l'explosion des consommations frontalières, car le carburant au Burkina, un pays qui ne produit pas une seule goutte de pétrole, est parmi les moins chers de la sous-région. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Au Rwanda, Liliane Mugabe-Kazi, une femme de 24 ans, arrêtée pour avoir porté une tenue jugée indigne, encourt jusqu'à 2 ans d'emprisonnement pour indécence publique, ont annoncé jeudi des procureurs. Elle a été arrêtée le 7 août à la suite d'un concert d'un musicien français 8 jours auparavant. Elle a assisté au concert avec une tenue qui révélait ses parties privées. Une tenue que nous qualifierons d'indigne, ont dit les procureurs, l'accusant de commettre un crime grave. En Guinée équatoriale, la politique de lutte contre les gangs met à mal les droits humains avec des détentions arbitraires, des tortures et des disparitions forcées, a dénoncé jeudi dans un rapport l'ONG Amnesty International. L'opération nettoyage a été lancée début mai en déployant près de 800 policiers après une énième attaque massive des 8 machettes, le gang le plus redouté qui a essaimé en quelques années de la capitale Malabo à quasiment toutes les villes du pays. Les cibles privilégiées de ces bandes sont les femmes, dont certaines sont violées en plus d'être dépouillées de leurs biens.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a averti jeudi que tout dégât à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia en Ukraine serait un suicide, alors que le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a dit craindre un nouveau Tchernobyl lors d'une rencontre à Lviv avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Quelques heures avant la rencontre, les forces russes ont continué à bombarder le nord-est de l'Ukraine, tuant au moins 6 personnes. Au moins 21 personnes ont été tuées et 33 blessées dans un attentat à l'explosif dans une mosquée de Kaboul mercredi à l'heure de la prière du soir, selon un bilan de la police donné jeudi. Le suspect de l'attaque contre l'auteur des versets sataniques, Salman Rushdie, a plaidé jeudi non coupable de tentative de meurtre et d'agression devant un tribunal de l'État de New York lors d'une première comparution après son inculpation par un grand jury dans une affaire au retentissement international. Les États-Unis ont exprimé jeudi leurs préoccupations après la fermeture par l'armée israélienne des bureaux de plusieurs ONG palestiniennes basées en Cisjordanie occupée et accusées de terrorisme par l'État hébreu, un geste étrié par de hauts responsables palestiniens. La Minute Écho, Eric Manirakiza.
L'Angola et l'Union européenne envisagent des pourparlers pour un accord commercial cette année dans le cadre d'un partenariat régional plus large qui existe entre le bloc et 6 pays de l'Afrique australe, a déclaré à Reuters, un porte-parole de l'Union européenne. L'accord éventuel augmenterait les exportations de produits angolais vers l'Union européenne et réduirait la prédominance du pétrole qui représente actuellement la quasi-totalité des exportations en valeur. L'Angola pourrait également exporter davantage de pétrole vers le bloc des 27. Dans le cadre de l'accord de partenariat économique APE, l'Union européenne a entièrement supprimé les droits de douane et les quotas sur toutes les importations en provenance du Botswana, du Lesotho, du Mozambique, de la Namibie et de l'Eswatini, et a presque entièrement levé les droits sur les exportations sud-africaines qui restaient toutefois soumises à des quotas. En échange, les pays d'Afrique australe ont supprimé les droits de douane sur près de 86% des exportations de l'Union européenne. Les échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique maintiennent une croissance à deux chiffres, grâce notamment à la hausse des prix des matières premières. Elles ont atteint 137,4 milliards de dollars au premier semestre 2022, en hausse de 16,6% par rapport à la même période de 2021, selon des données publiées par la douane chinoise. Cependant, la fermeture du port sud-africain de Durban, par lequel transitent près de 20% des échanges commerciaux entre l'Afrique et la Chine, a eu un impact négatif sur le commerce sino-africain au second trimestre.
Merci Eric. Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Le Nigeria réussit sa phase de poule du mondial féminin des moins de 20 ans.
Oui, les Nigérianes ont dominé hier le Canada 3-1 lors de leur dernier match de poule au Costa Rica où se joue ce mondial féminin des moins de 20 ans. Les Super Falconettes bouclent ainsi leur phase de poule sans faute avec 3 victoires en autant de matchs. Elles finissent leader du groupe C et affronteront les Pays-Bas en quart de finale. L'autre représentant africain à ce mondial, le Ghana, s'est incliné 3 fois en 3 matchs de poule et est donc out.
Mondial 2022, 2,45 millions de billets écoulés avant l'ultime phase.
C'est ce qu'annonce la FIFA qui précise que lors d'une nouvelle phase de vente organisée du 5 juillet au 16 août sur la base du principe premier arrivé, premier servi, plus de 520 000 billets supplémentaires ont été vendus. Pour les matchs de poule, l'instance mondiale affirme que les affiches qui ont eu le plus de succès sont Cameroun-Brésil, Brésil-Serbie, Portugal-Uruguay ou encore Costa Rica-Allemagne et Australie-Danemark. Il y en a en tout plus de 3 millions de billets disponibles pour le mondial 2022. Plus d'un million de visiteurs sont attendus au Qatar, pays de 2,8 millions d'habitants, pour la première Coupe du monde de l'histoire dans un pays arabe. La compétition est prévue du 20 novembre au 18 décembre prochain.
On l'a annoncé hier, les Lakers officialisent la prolongation du contrat de LeBron James.
LeBron James restera avec les Los Angeles Lakers jusqu'en 2025. La franchise multititrée n'a pas précisé les détails financiers de l'opération, mais Rich Paul, agent de la star, a précisé mercredi auprès d'ESPN qu'il était d'un montant de 97,1 millions de dollars et qu'elle s'accompagnait d'une option pour la saison 2024-2025. Il reste 1 an de contrat à LeBron James avec la franchise californienne. La prolongation des King James lui assure à bientôt 38 ans, au moins 2 ans de plus sur les parquets de la Ligue de basketball nord-américaine et le rapproche de son objectif de fin de carrière, jouer aux côtés de son fils Bronny, 17 ans, qui pourra postuler à la draft de la NBA de 2024. Malgré son âge et quelques blessures, LeBron était parvenu à apporter un nouveau titre aux Lakers en 2020, le 17e de la franchise et sa 4e bague sur le plan personnel.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Dans l'est de la République démocratique du Congo, la MONUSCO a quitté la ville de Butembo. Le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu l'a annoncé hier. Ce départ fait suite à de violentes manifestations contre la présence de la mission onusienne, accusée d'inefficacité face à l'insécurité dans la région. Au moins 3 casques bleus ont été tués dans cette ville au nord de Goma. Pour la MONUSCO, il s'agit d'un redéploiement temporaire de son personnel. Davantage de détails dans ce reportage de Zanem Neti Zaidi.
Le retrait des casques bleus de la MONUSCO de la ville de Butembo doit se faire dans le calme, a demandé le gouverneur militaire de la province. Le lieutenant-général Constant Dima rassure que le personnel onusien a déjà été évacué. Seuls quelques matériels restent pour le moment.
Pour les équipements encore dans la ville, nous allons nous réunir à Goma avec les responsables de la mission pour voir comment les évacuer. Les quelques personnels qui restent aujourd'hui à Butembo, je vous annonce que nous sommes en train de nous préparer ensemble avec vous, que ça soit vraiment apaisé. Ils seront encadrés par les forces de défense et de sécurité dans les heures à venir. Nous en appelons à l'apaisement de la population. La MONUSCO est déjà partie.
Le retrait de la MONUSCO de la ville de Butembo est une satisfaction pour certains acteurs de la société civile. Rose Tombeane, de la dynamique des femmes pour la bonne gouvernance, dit attendre le départ effectif des casques bleus et appelle à la vigilance.
Nous le recevons avec satisfaction, mais nous attendons que cela soit effectif. Et nous restons vigilants. Nous allons accorder juste quelques jours, pas vraiment une semaine. Et aussi les matériels sont partis, parce que ce sera maintenant là le départ effectif. Que notre lutte n'était pas qu'elle puisse se retirer de la seule ville de Butembo, mais qu'elle se retire du moins de la province du Nord Kivu.
La MONUSCO parle d'un redéploiement de son personnel hors de Butembo. De Kadilo, porte-parole par intérim de la mission onusienne en RDC.
Après des consultations engagées avec les autorités locales et nationales, la MONUSCO procède à un redéploiement temporaire de son personnel à l'extérieur de Butembo.
Ce redéploiement intervient après 2 semaines de violentes manifestations au nord et au sud Kivu contre la présence onusienne. Selon un bilan officiel du gouvernement, ces manifestations ont fait 36 morts, dont 4 casques bleus et près de 170 blessés. Zanem Neti Zaidi à Goma pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
Au Tchad, un dialogue national inclusif s'ouvre demain samedi à N'Djamena entre l'opposition civile et armée et la junte au pouvoir. Jeudi, la plateforme de concertation de la diaspora tchadienne a organisé une conférence de presse virtuelle et fait une déclaration sur ses attentes par rapport à ce dialogue national inclusif. Pour davantage de précision, Mohamed Oumfa a joint Jonabai Laya, le porte-parole de la plateforme.
Nous avons simplement fait le constat du processus du dialogue en cours, les ratés, et nous avons indexé la mauvaise foi du CMT parce que le processus de ce dialogue n'a pas du tout été inclusif. Nous avions aussi interpellé la communauté internationale, notamment nous avons encouragé les États-Unis, l'Union africaine, l'Union européenne à respecter leur engagement à accompagner le Tchad vers une vraie paix.
Vous parlez de la mauvaise foi du CMT, c'est-à-dire le Conseil militaire de transition. Pourquoi vous dites que ce conseil est de mauvaise foi?
Parce que le CMT n'a pas tenu parole. Après le coup d'État d'avril 2021, à travers lequel ils ont confisqué le pouvoir, ils ont fait une déclaration pour dire qu'à la fin des 18 mois, ils rendront le pouvoir aux civils, qu'ils n'allaient pas étendre la transition. Mais plus les jours avancent, nous voyons plutôt une volonté manifeste de confisquer le pouvoir. Et les revendications légitimes du peuple tchadien, qui sont entre autres l'inéligibilité des membres de la transition, la durée de la charte et même la révision de la charte. Aucune de ces préalables et de ces conditions n'a été respectée.
Justement, il se tient à N'Djamena samedi un dialogue inclusif. C'est l'occasion de discuter de tous ces points-là, vous ne pensez pas ?
Oui, mais tout se jouera au niveau de la salle. Et la question de la représentation est déjà faussée. On parle de 1400 participants et il semblerait que 1200 seraient des partisans du MPS et du CMT. Donc c'est une rencontre des courtisans du système qui vont aller tout valider pour permettre la dévolution dynastique du pouvoir d'être consacré. Les acteurs clés sont exclus. Je cite par exemple Wakitam à la coalition, la coordination des actions citoyennes n'est pas écoutée. Les grands partis tels que les transformateurs sont exclus. Et la diaspora militante et engagée telle que notre plateforme est exclue. Donc le processus est vraiment biaisé. C'est comme les dés sont déjà pipés d'avance.
Ce dialogue va se tenir donc à N'Djamena. Si vous n'êtes pas satisfait, votre organisation, que comptez-vous faire exactement? Quelles sont les actions prévues par votre collectif?
Je fais partie d'une plateforme qui a toujours mené une lutte pacifique. Nous ne pouvons pas condamner certains acteurs qui ont pris les armes, mais au niveau de notre plateforme, nous sommes pour une lutte pacifique parce que la guerre a tellement détruit notre pays.
John Abaye Laya, le porte-parole de la plateforme.
Votre rendez-vous quotidien 24/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
Au Burkina Faso, le gouvernement condamne des propos haineux véhiculés dans des audios sur les réseaux sociaux. Ces messages appellent au meurtre et à l'épuration ethnique des peuls. Les réactions avec notre correspondant à Ouagadougou, Lamine Traoré.
Les derniers audios qui ont circulé depuis sur WhatsApp sont virtuellement postés depuis la région du Sud-Ouest. Lionel Bilgo, porte-parole du gouvernement, a vivement réagi. Pour lui, ce sont des appels directs et actifs au meurtre, à des tueries de masse et à l'épuration ethnique, ajoutant que le ton et les mots témoignent de la gravité de la situation. Il s'agit bien de discours haineux, subversifs, dangereux et inacceptables dans un pays riche et diversifié comme le Burkina Faso. Docteur Daouda Diallo, porte-parole du collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés.
Quand le péril frappe une communauté qui est prise en étau d'un côté par les terroristes qui tuent et de l'autre côté par certains éléments qui ne lui accordent aucune présomption d'innocence, certains Burkinabés indélicats pensent que cette communauté peut être nettoyée, génocidé sans être inquiété. Je salue le message du gouvernement qui vise à dissuader, mais ce qui est important, c'est de prendre des mesures concrètes pour sévir contre les propos haineux et ethnicistes et également sévir contre les indélicats.
Blaise Kitega, analyste politique, voit deux choses.
D'abord, un déficit communicationnel sur les risques de communautarisation de cette crise sécuritaire-là, mais également les risques de stigmatisation et de repli identitaire. Donc, je pense que c'est cela d'une part. D'autre part, je pense que depuis longtemps, l'ethnie et la religion sont restées longtemps tabous dans notre pays, ce qui fait que il n'y a pas suffisamment de débat. Le gouvernement devrait beaucoup travailler en anticipation.
Professeur Albert Ouedraogo, secrétaire général de Racine, une association qui œuvre à la réhabilitation des valeurs traditionnelles et à la valorisation des chefferies.
Il est vrai que la situation sécuritaire qui se dégrade peut amener les uns et les autres à avoir des réflexes sécuritaires et de repli sur soi, mais il faut quand même savoir raison garder. Et de mon point de vue, je pense que il nous appartient à tous de ne pas verser dans la stigmatisation facile et dans la chasse aux sorcières. Il faut que les autorités, en plus de condamner les propos, montre un peu plus de muscles par rapport à la lutte contre le terrorisme. Il ne faut pas prendre la proie pour l'ombre, il faut plutôt s'en prendre réellement aux causes.
Le gouvernement a rassuré qu'il va engager des poursuites judiciaires contre les auteurs de ces propos. Toutes les conséquences de droit vont être tirées, assure le porte-parole du gouvernement qui indique qu'il faut déconstruire ces discours haineux qui mettent à mal la cohésion et l'unité nationale. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24h sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM.
Au Bénin, des jeunes venus de plusieurs pays d'Afrique francophone s'investissent dans l'intelligence artificielle pour apporter des solutions innovantes au développement. C'est à travers la deuxième édition de l'école d'été sur l'intelligence artificielle organisée par la Fondation Vallée qui entend responsabiliser la jeunesse, lui donner les outils nécessaires pour faire face aux défis du monde actuel. Les précisions de notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur, à Dandé.
Au total, 150 jeunes étudiants et diplômés d'écoles supérieures des pays d'Afrique francophone ont préparé cette école d'été initiée par la Fondation Vallée. Il s'agit d'une plateforme pédagogique axée sur la programmation, le learning, l'électronique embarquée, y compris la robotique et la domotique. Respectivement passionnée de programmation, de la mathématique appliquée et de l'intelligence artificielle, la Guinéenne Kadiatou Diallo, diplômée en gestion informatique, et le Malgache Fitahiana, doctorant en géographie et mathématiques appliquées, participe à l'IEA 2022.
Je travaille sur la voiture automatique. Une voiture qu'on a en partie conçue ici grâce à l'imprimante 3D du bloc d'IA et les autres composants, on les a commandés, on les a reçus. Mais on est en train de tout monter nous-mêmes.
On sait que le domaine des hélicos, par exemple, n'est pas très développé en Afrique. C'est déjà même un appel à nos gouvernements de façon indirecte qu'il y a des jeunes qui sont prêts.
Quant à Sienka, qui vient du Tchad, il a travaillé sur une méthode de technologie agricole qui, selon ses dits, pourrait révolutionner le secteur agricole au Tchad.
J'ai grandi en aidant mon père dans les champs, dans l'agriculture, et j'étais devenu passionné de la technologie. Au Tchad, nous avions beaucoup de difficultés, surtout avec les changements climatiques, les pluies sont irrégulières, et les paysans surtout font face au manque de pluie. Si on pourrait développer un algorithme qui essaie de prédire, par exemple, la culture du sorgho ou bien du maïs, leur dire, par exemple, on devrait faire de l'irrigation à telle période pour maximiser la production. Et je suis très confiant que beaucoup d'agriculteurs au Tchad ont besoin de telles solutions.
Les participants à cette formation ne manquent pas d'ingéniosité, de la fabrication des voitures autonomes, des maisons intelligentes, des moteurs de recherche intelligents, des drones autonomes, des jeux vidéo, des tapis roulants intelligents grâce à l'intelligence artificielle. Autant de projets innovants développés par des juniors et des seniors qui aspirent à sortir le continent africain de l'ombre, a déclaré Dr. Espérant Padounou, directeur de la Fondation Vallée et président de l'ONG Bénin Excellence.
Cette initiative vient du constat que dans des pays comme la France et le Vietnam où la Fondation Vallée intervient, les élèves apprennent l'intelligence artificielle ou au moins commencent à apprendre la programmation dès la classe de 3e ou 2e. Et quand j'ai été au Vietnam avec la Fondation Vallée, ce constat m'a frappé. C'est l'une des raisons pour lesquelles, d'une part, les anciens boursiers de la Fondation qui sont allés dans ces pays et ont constaté les différences ont décidé de s'unir pour proposer une école d'été permettant aux Béninois qu'ils étaient en classe de seconde de s'initier à la programmation et aux outils de base de l'intelligence artificielle.
Cette année, la formation a été ouverte aux juniors âgés de 7 à 13 ans ainsi qu'à d'autres pays d'Afrique. Pour Espérant Padounou, l'intelligence artificielle est un terrain si vaste que le Bénin à lui seul ne pourrait contenir.
L'avenir est dans le panafricanisme. Le Bénin est un pays trop petit pour rêver, pour penser qu'il arrivera à faire des grandes choses tout seul. L'idée de faire intervenir d'autres Africains, c'est de créer un dialogue, de créer des possibilités d'échange et de partenariat entre jeunes Africains qui pourront à la base contribuer ensuite à ce que nos gouvernements travaillent ensemble sur ces questions d'intelligence artificielle, d'enseignement, mais pourquoi pas également sur d'autres sujets.
Le représentant résident du PNUD au Bénin, Awale Mohamed Abchir, a souligné que la tenue du programme et les innovations apportées sont la preuve du dynamisme de la Fondation Vallée et le PNUD est fier de contribuer au rayonnement du Bénin. L'école d'été, selon lui, permet au Bénin de prendre de l'avance sur la réalité numérique et donne la possibilité de s'en servir pour réduire les inégalités et de faire progresser la démocratie et les droits de l'homme. De Cotonou, c'est notre Fleur Adondé pour VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sedoudia, à la mise en ondes de Michel Joseph. À la console, Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour en suivre de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.